Vous avez 5 secondes pour arrêter la bande. 5, 4, 3, 2, 1.
Comme tous les matins d'ailleurs.
Vénère.
Je sais pas pourquoi.
C'est la drogue.
Peut-être parce qu'au fond de moi je suis un winner.
Super.
Par exemple cet été au ping-pong j'ai remarqué que j'aimais bien être number one.
Écoute-le celui-là.
Internationale radio HD на волне 99.1 FM.
Por el amor de Claudia, me voy a tomar veneno. Por el amor de Claudia, por el amor de Claudia, por el amor de Claudia.
Éric Amiens.
Tout à l'heure, à partir de 21h10 TU.
RFI.
Merci d'écouter RFI à la seconde près. Il est 6h ici dans nos studios à Paris. Une heure de plus à tir au Liban. Et le journal international, c'est avec Paul Lonsin-Spinelli. Bonjour Paul.
Bonjour Vincent Dublanche, bonjour à tous. Troisième jour d'un fragile cessez-le-feu entre le Liban et Israël, marqué par les accrochages et les menaces. Les troupes israéliennes ont annoncé hier avoir éliminé une cellule du Hezbollah dans le sud du Liban. Le mouvement chiite menace de répondre. Un soldat français opérant pour la force de maintien de la paix de l'ONU a également été tué dans ce sud du Liban hier. Une fenêtre très rapidement refermée par l'Iran, le détroit d'Ormuz a de nouveau été bloqué sur décision de Téhéran hier en raison du maintien du blocus américain sur les ports iraniens. Malgré ce rétropédalage, le dialogue n'est pas rompu. Un accord est encore loin, mais les discussions progressent selon le président du Parlement iranien. Malgré les divergences, la CDAO, les pays membres de l'AES, l'ONU étaient au Togo hier pour parler de la crise sécuritaire au Sahel. Et puis c'est une réunion pensée comme un contre-pied à la mouvance réactionnaire et identitaire. Barcelone, en Espagne, accueille ce week-end une internationale de dirigeants progressistes pour protéger la démocratie. C'est un code appliqué dans la bande de Gaza et repris par Israël désormais dans le sud du Liban. Une ligne jaune de démarcation a été établie par les forces israéliennes qui annoncent avoir éliminé hier une cellule terroriste, selon eux, du Hezbollah libanais, présenté comme une menace pour le nord d'Israël frontalier. Dans la foulée, le chef du mouvement chiite pro-iranien a menacé de riposter aux violations israéliennes d'un cessez-le-feu qui entre aujourd'hui dans son troisième jour. Malgré cette insécurité persistante, les quelques 1 200 000 Libanais déplacés tentent toujours de rentrer chez eux, comme à Tyr, grande ville de la région, largement démolie par les frappes israéliennes. C'est un reportage de Sophie Guignon avec Rita Basile.
Sur la corniche de Tyr, seule la mer n'a pas changé. La famille Ratillé souffle après avoir découvert Kana, leur village à 15 km. Fatima, 8 ans, est sous le choc.
On est venu ici pour voir la vue, changer d'air. C'est très beau ici. J'aime l'atmosphère. À Kana, il y a beaucoup de maisons détruites, mais pas toutes. Mon cœur part en miettes quand je vois les destructions.
Ali, son oncle, garagiste, raconte les difficultés du retour dans leur village auquel il ne se résigne pas.
Dans notre ville, presque tout est détruit. On a dormi dans notre maison. Grâce à Dieu, elle tient encore debout. Mais il n'y a pas grand monde là-bas. Il n'y a plus d'eau, ni d'électricité, ni d'épicerie. Il n'y a pas de magasin pour faire ses courses. Les gens descendent des villages à Tyr pour ramener de la nourriture pour leur famille. Et ils remontent au village.
Pour Ali, l'offensive israélienne au Liban est une punition collective contre la population.
Les Israéliens disent « ici il y a une cible » et ils bombardent. Mais la réalité c'est qu'ils détruisent tout, les maisons, les infrastructures électriques. Moi je pense qu'ils ne veulent pas laisser vivre les chiites. Depuis qu'on est né, on ne vit que des guerres.
La famille espère qu'il sera possible de reconstruire leur vie à Kana, malgré une trêve fébrile. Sophie Guignon, Rita Basile, de retour de Tyr, RFI.
C'est aussi dans le sud du Liban qu'un militaire français a été tué hier. 3 autres ont été blessés. Ils opéraient au sein de la FINUL, la mission de maintien de la paix de l'ONU dans le pays, lorsqu'ils ont été piégés dans une embuscade. La France, les Nations Unies, le président libanais Joseph Aoun désigne le Hezbollah comme responsable de l'attaque. Mais le groupe nie toute implication. Entre l'Iran et les États-Unis, la signature d'un accord reste lointaine, de l'aveu même du président du Parlement iranien qui regrette de nombreuses divergences. Mais Mohamed Bakir Khalibaf évoque quand même cette nuit des progrès dans les négociations. Pourtant, hier, l'Iran est revenu sur sa décision de rouvrir le détroit d'Ormuz en raison du blocus américain maintenu dans les ports iraniens. Donald Trump a dénoncé un chantage. 3 navires commerciaux ont été ensuite visés dans ce couloir maritime. Cet étranglement du détroit d'Ormuz, il risque donc de continuer à peser sur les approvisionnements énergétiques à travers le monde entier. Au Japon, l'importation de dérivés de pétrole brut est cruciale, notamment pour le secteur médical. Parmi les ustensiles qui commencent à s'épuiser, il y a les incontournables gants en latex. Bruno Duval, cela inquiète forcément les soignants comme les patients à Tokyo.
Le cabinet dentaire du centre-ville tourne au ralenti depuis 10 jours. Il n'assure que les soins curatifs fait non préventif. Les visites de contrôle et les détartrages, par exemple, sont remis à plus tard. Car son stock de gants en latex, de solvants, de solutions de stérilisation et même de fils dentaires fond comme neige au soleil. Et les fournisseurs, eux-mêmes d'un inconnu, ne s'engagent pas sur les dates des prochaines livraisons. Au grand dam de ce dentiste.
Je ne parviens pas à me réapprovisionner. C'est terrible, on se croirait vraiment revenu au temps du Covid. Ça fait peur.
L'aide à domicile est elle aussi impactée, et singulièrement l'assistance aux personnes âgées très dépendantes, puisque les couches culottes, les gaines de contention en nylon ou en lycra et les pansements adhésifs stériles, tous fabriqués à base de produits pétroliers, se font rares et chers, ce qui alarme cette assistante sociale.
Manquer de gants en latex, qui sont vitaux contre les infections, et puis aussi de couches, si cruciales pour l'hygiène, c'est le pire qui pouvait nous arriver. Il faut d'urgence remédier à cette situation.
Les secteurs de l'imagerie médicale et de la dialyse connaissent également des difficultés. En catastrophe, une commission interministérielle de crise a donc été mise en place. Elle suit la situation en temps réel et essaye d'éviter qu'elle ne devienne ingérable. Bruno Duval, Tokyo. RFI.
L'exploitation des ressources naturelles des pays africains et leurs conséquences sociales et environnementales ont été dépeintes comme un fléau hier par le pape lors de son arrivée en Angola. Troisième étape de la tournée africaine de Léon XIV. Après ce discours à Luanda, le souverain pontife doit présider une nouvelle messe en plein air ce matin à 30 km de la capitale. La crise sécuritaire au Sahel, au centre d'une réunion internationale organisée à Lomé hier, est fait rare, étaient présents simultanément au Togo des représentants de la CDAO, des pays membres de l'Alliance des États du Sahel, Mali, Niger et Burkina Faso, de l'ONU, ainsi que des personnalités européennes. Et Serge Daniel, les participants au sommet étaient unanimes. Seule une synergie d'action peut permettre de lutter efficacement contre le terrorisme.
La nouvelle stratégie pour le Sahel présentée par le Togo a été au centre des discussions. Elle s'articule autour de 5 piliers, parmi lesquels la coopération entre le Nord et les pays du Sahel sur de nouvelles bases afin de lutter contre le terrorisme. Parmi les participants à la rencontre de Lomé, l'envoyé spécial de l'Union européenne pour le Sahel, il approuve cette proposition. João Cravino.
En Europe, nous ne pouvons pas dormir tranquille si on ne peut pas dormir tranquille au Sahel. Il y a donc des intérêts partagés très fort pour qu'on continue à travailler ensemble pour le futur des peuples de la région.
D'après nos informations, en marge de la rencontre, le Togo a facilité des entretiens privés entre le représentant d'un pays européen et d'un autre pays du Sahel pour briser un peu la glace. Autre axe de la nouvelle stratégie de lutte contre les djihadistes et l'insécurité dans le Sahel, une coopération régionale plus pragmatique. La menace terroriste s'étend progressivement vers les États du littoral du Golfe de Guinée. Ajoutons que de loin, l'événement de Lomé a été suivi par de jeunes exilés du Mali, du Niger et du Burkina Faso en Europe, réunis au sein de l'Alliance des démocrates du Sahel, l'ADS. Pour eux, le retour à la démocratie dans l'espace sahélien est également nécessaire pour obtenir la paix.
Serge Daniel, un homme de 58 ans, a tué 6 personnes et blessé plus d'une dizaine d'autres hier à Kiev, en Ukraine, avant d'être abattu. Selon les autorités locales, le suspect a ouvert le feu dans la rue d'un quartier résidentiel de la capitale ukrainienne avant de se barricader dans un supermarché, prenant en otage des clients. 4 ont pu être libérés. Le parquet a indiqué que l'assaillant avait utilisé une arme à feu déclarée et qu'il était né à Moscou, mais on ne sait pas pour l'instant s'il détenait la nationalité russe. Lui ne compte pas faire payer son pays pour envoyer des armes à l'Ukraine. L'ex-président bulgare Roumen Radev se présente aujourd'hui comme le favori d'élections législatives organisées en Bulgarie. C'est le 8e scrutin en 5 ans dans le pays le plus pauvre de l'Union européenne. Les bureaux de vote viennent d'ouvrir, ont ouvert il y a une dizaine de minutes. 6,5 millions de Bulgares, incluant la diaspora, sont appelés aux urnes. La campagne s'est concentrée pour tous les parti sur la lutte contre la corruption dont avait été accusé l'ex-chef du gouvernement Boyko Borisov, chassé du pouvoir en 2021 après 10 ans à la tête du gouvernement. Deux rendez-vous politiques pour deux tendances diamétralement opposées qui se tiennent ce week-end en Europe. À Milan, dans le nord de l'Italie, les extrêmes droites européennes se rassemblent. Le français Jordan Bardella du Rassemblement National fait partie des têtes d'affiche. Et dans le même temps, c'est une internationale progressiste que le premier ministre espagnol Pedro Pedro Sanchez a réuni à Barcelone, avec notamment la présence de la dirigeante mexicaine Claudia Sheinbaum et son homologue brésilien Lula. Sur place, c'est un reportage signé Élise Gazangel.
Plus de 3000 participants venus d'une centaine d'organisations progressistes de partout dans le monde se sont réunis à Barcelone. Une première qui ravit les militants, à l'image de Sébastien Lorenzo, argentin.
Ça nous encourage pour avancer, prendre de la force et voir qu'on est beaucoup plus, nous qui voulons un monde en paix, plutôt que les solutions violentes que certains pays donnent comme les seules possibles.
Dans une ambiance festive et revendicative, les progressistes ont échangé lors de dizaines d'ateliers et débats pendant deux jours. Casquette rouge « Make love, not fascism » sur la tête, Mercè Saltor, catalane, nuance cette euphorie.
J'ai la sensation qu'on est un peu en retard. On attend toujours d'avoir un ennemi très visible pour nous rassembler. On devrait peut-être apprendre la leçon et comprendre que si on est toujours séparés, si on ne coopère pas, alors ce qui se passe, c'est que la droite qui a plus de facilité à se rassembler nous passera devant.
Militants comme dirigeants espèrent que cette démonstration de force relancera leur mouvement face à la vague réactionnaire. Réponse dans les urnes. Élise Gazangel, Barcelone, RFI.
Et dans une déclaration commune, le Mexique, le Brésil et l'Espagne ont fait part hier de leurs préoccupations face à la situation dramatique à Cuba et demandent un dialogue respectueux et sincère avec la Havane, sans citer explicitement les États-Unis qui imposent depuis janvier un blocus qui asphyxie l'île communiste. En France, depuis le mois d'octobre, 4800 personnes voulant travailler avec des enfants ont été suspendues ou refusées. Tous ont été écartés car ils avaient été condamnés ou font face à des procédures. Procédure en cours pour des infractions incompatibles avec le travail auprès des mineurs. Depuis ce mois d'octobre, l'attestation d'honorabilité est obligatoire pour les personnes travaillant dans la protection de l'enfance et les crèches. Mais cette nouvelle procédure qui vise à vérifier le casier judiciaire et les antécédents n'est obligatoire que dans ces secteurs. Sarah El Haïry, la haute commissaire française à l'enfance, plaide pour l'élargissement de cette mesure.
Les attestations d'honorabilité qui ont été mises en place en octobre dernier sont des attestations obligatoires, à demander dans plusieurs secteurs, petite enfance, handicap, IME, protection de l'enfance, entre autres, mais également autonomie, que ce soit des salariés ou des bénévoles, des personnes qui ont été condamnées. Et dans leur condamnation, il y a noir sur blanc le fait que ces emplois n'étaient plus compatibles avec la proximité des enfants ou qui ont des procédures en cours, les rendant incompatibles avec la proximité avec les enfants. Dans les prochaines semaines, le ministre Gérald Darmanin et la ministre Stéphanie Rist présenteront au Parlement un texte permettant d'élargir en réalité l'usage de ce certificat d'honorabilité. Aujourd'hui, généraliser l'attestation d'honorabilité et la rendre accessible à l'ensemble des secteurs qui sont en contact avec les enfants, c'est élargir le bouclier.
Un propos recueilli par Tanita Fallet. Et puis en football, c'est un choc déterminant pour la course au titre. En Angleterre, Manchester City, deuxième, reçoit le leader Arsenal pour le compte de la 33e journée de Première Ligue aujourd'hui. 6 points séparent les deux équipes au classement. Coup d'envoi à 15h30, temps universel. Hier, Manchester United a conforté sa 3e place en s'imposant sur la pelouse de Chelsea 1-0. Enfin, en Espagne, la Real Sociedad a remporté la Coupe du Roi en battant l'Atlético Madrid en finale. 2 buts partout, puis victoire au tir au but à Madrid. Il est 6h13 comme à Paris.
RFI, toute l'actualité.
Paul Lancin-Spinelli.
Au programme du prochain quart d'heure sur Radio France Internationale, reportage à Varsovie, capitale du pays le plus dynamique d'Europe centrale, la Pologne. Taux de chômage parmi les plus bas de l'Union européenne, 3,6% de croissance l'an dernier. Des statistiques qui peuvent faire pâlir bon nombre de voisins européens, avec des doutes néanmoins sur la capacité de développement polonaise sans soutien de l'Europe et où les habitants font face à une inflation galopante. L'intelligence artificielle, véritable catalyseur des opérations militaires, ça sera dans ligne de défense. Élections consulaires, mode d'emploi, les Français de l'étranger votent les 30 et 31 mai prochains pour élire leurs représentants. On vous explique comment ça va se passer dans Vivre ailleurs. Et puis une professionnelle du fact-checking au Sénégal, comment vit-elle, comment travaille-t-elle? Fatou Derry Diagne se raconte dans l'atelier des médias. Ce sont deux États moteurs de l'Union européenne qui se sont étroitement rapprochés depuis un an. Demain se tiendra le premier sommet France-Pologne depuis la signature du traité de Nancy, acté en mai 2025. La Pologne, qui est redevenue un poisson pilote de l'UE en Europe centrale depuis le retour au pouvoir de Donald Tusk il y a plus de 2 ans maintenant, dans les rues de Varsovie, la capitale, les Polonais ont décrit à notre correspondant Adrien Sarla les effets de cette transformation économique.
Les bras chargés de 2 sacs de courses remplis à ras-bord, Eva, 80 ans, sort tout juste du centre commercial où elle a l'habitude de faire ses achats.
Je sens que je vis plus confortablement qu'avant. Je peux acheter des articles plus haut de gamme, plus chers, de meilleure qualité. Mes courses n'ont plus rien à voir.
Comme tous les Polonais, l'octogénaire a vu le pays se transformer drastiquement ces 20 dernières années. Pour Majena, 67 ans, c'est l'adhésion à l'Union européenne en 2004 qui a été l'élément déclencheur de la transformation du pays.
Avant, selon moi, l'économie n'était pas aussi stable et prévisible qu'elle peut l'être aujourd'hui. Avant, on nous promettait que tout allait changer, qu'on allait reconstruire la Pologne, mais rien ne marchait. Mais depuis qu'on a reçu des fonds européens, on voit que ça fait avancer les décisions politiques. Il suffit de regarder à quoi ressemble la capitale et surtout le centre. Et si vous roulez vers l'est, vous pourrez voir l'amélioration de nos infrastructures routières.
Avec un taux de chômage parmi les plus bas d'Europe et 3,6% de croissance enregistrée en 2025, le pays est désormais la 6e puissance économique européenne et la 20e mondiale. Mais à l'école de commerce de Varsovie, le professeur Mariusz Radło met en garde contre les risques d'une croissance essentiellement tirée par le plan de reconstruction européen, dont les fonds devraient cesser d'affluer d'ici la fin de l'année.
Les pays qui ne financent pas leur propre potentiel de croissance peuvent tomber dans le piège du développement régional. On se développe vite, donc l'aide européenne retombe, alors qu'on n'a pas mis de modèle en place pour se développer de façon autonome.
Malgré une hausse certaine du pouvoir d'achat et un salaire moyen qui avoisine désormais les 2100 euros par mois, les Polonais se retrouvent aussi confrontés à une forte inflation. Dans le quartier résidentiel d'Ursynów, au sud de Varsovie, Marta promène son fils dans une poussette. La jeune maman de 39 ans et son compagnon se félicitent d'avoir acheté leur appartement avant la naissance de leur fils. 5 ans après l'achat, ils estiment qu'ils ne seraient pas en capacité d'acheter le même bien aujourd'hui.
On l'a acheté à 1600 euros le mètre carré, alors que maintenant, dans notre quartier, on ne peut pas viser un appartement à moins de 4200 euros le mètre carré. C'est difficile car les salaires ne sont pas en adéquation avec les besoins et la hausse des prix.
Pour elle, comme pour beaucoup de Polonais, la croissance a un prix que tous ne peuvent pas se permettre de payer. Adrien Sarla, Varsovie, RFI.
Un reportage à réécouter quand vous le voulez sur RFI.fr. Le domaine militaire, bien sûr, n'échappe pas à la révolution intelligence artificielle. Des algorithmes IA embarqués permettent de détecter, classifier, identifier automatiquement des objets stratégiques, et ce, en un temps record. On en parle avec vous, Franck Alexandre, dans Ligne de Défense. Franck, ces systèmes transforment en profondeur le tempo des opérations.
La vitesse, facteur clé de la victoire, et pour atteindre cette célérité, l'intelligence artificielle est devenue incontournable, insiste le colonel Frédéric en charge du système d'information de l'armée de l'air et de l'espace.
On travaille selon une boucle opérationnelle. Alors parfois on l'appelle la boucle OODA, observation, orientation, décision, action. Globalement, c'est une boucle dans laquelle on traite du renseignement, savoir quelle est la menace. Au regard des moyens dont on dispose, on va planifier la meilleure des missions possibles. Et les outils d'IA vont permettre à l'opérateur humain de faciliter toute la réalisation de ce cycle-là.
Safran IA, ex-Preligence, développe des algorithmes prêts à l'emploi sur tout type de capteurs, souligne son directeur Sébastien Fabre, que ce soit à partir d'images satellites, de boules électroniques ou encore de capteurs électromagnétiques.
Voilà, l'IA est capable de détecter des objets, donc on appelle des observables, de savoir quel type d'objet il s'agit, est-ce que c'est un véhicule blindé, est-ce que c'est un pick-up, etc. Même de les identifier, de quel type de véhicule blindé il s'agit, de quel type d'avion il s'agit. Quand vous avez quelqu'un qui utilise une jumelle, par exemple, pour observer un terrain d'opération, l'humain peut être distrait par quelque chose qui se passe et louper l'arrivée d'un drone, par exemple. Et grâce à notre IA, on va être capable de mettre un petit cadre autour de quelque chose que l'humain ne verrait pas forcément ou serait serait distrait par un autre objet.
L'IA est donc un démultiplicateur de force. Prenons le cas d'un pilote, la boule optronique, qui équipe son chasseur à l'instar d'une jumelle, lui permet de voir loin, mais identifier ce qui est perçu, c'est une autre affaire. Colonel Frédéric.
Parfois, le pilote voit vaguement quelque chose dans le ciel. L'objectif, c'est d'aller plus vite sur la détection de cet objet. Et là, il y a des algorithmes d'IA qui montrent qu'ils voient mieux que l'œil humain. Et puis, qui peuvent, au-delà de la détection d'un objet, aller reconnaître également que c'est un avion et vérifier de quel type d'avion il s'agit. Là où l'homme, finalement, n'a pas les capacités physiques, c'est là où il faut chercher le positionnement de l'IA.
Mais si l'IA se niche derrière tous les capteurs, il faut désormais bâtir une nouvelle architecture, souligne Sébastien Fabre de Safran IA.
Si je prends simplement l'exemple de plusieurs drones déployés sur un théâtre d'opération, vous ne pouvez pas regarder un écran pour chacun des drones et essayer de comprendre ce qui se passe. Donc un de nos enjeux, c'est la fusion de ces informations. Ce qu'on va voir arriver dans les années qui viennent, c'est la coordination de tous ces systèmes avec l'IA agentique qui va organiser les différentes IA qui sont spécialisées dans leur domaine pour en fait amener de la cohérence, de la synchronisation et de l'efficacité dans tout ça.
La course à la vitesse va aussi obliger à l'automatisation de certains systèmes d'armes, en particulier pour la lutte anti-drone, où seule l'IA pourra répondre à l'IA.
C'était Ligne de Défense avec Franck Alexandre. RFI 6h21 à Paris, c'est dans ta nature. Florent Guignard, vous nous emmenez cette semaine dans un monde sans pitié, où des plantes jouent leur survie en éliminant la concurrence et où tous les coups sont permis.
Que le meilleur gagne et que les autres crèvent. Bienvenue dans un monde où règne une concurrence effrénée, sans pitié, où Margaret Thatcher et Javier Milei passeraient pour de tendres agneaux pacifistes. Oui, bienvenue dans la nature. Dans cette guerre pour la vie, certaines plantes ont des armes chimiques. C'est le cas de l'arbre à créosote. Il pousse dans les déserts d'Amérique du Nord où l'eau est rare et le sol pauvre. La plante aux jolies fleurs jaunes contient de la créosote, une toxine si puissante que rien ne pousse autour. La plante s'assure ainsi le monopole de l'eau et des nutriments. Et c'est efficace. Dans le désert californien, un arbre à créosote a dépassé les 11 500 ans. Ce serait la plus vieille plante au monde. Il y a parfois des câlins mortels, ce que prodiguent les cuscutes qui s'enroulent autour d'une plante. Elles ont détecté leurs composants chimiques volatiles.
Ça sent la chair fraîche ici.
Les cuscutes n'ont quasiment pas de feuilles, pas besoin de faire la photosynthèse puisqu'elles se nourrissent en plantant des espèces de suçoires dans les tiges de leurs victimes. Pour en aspirer l'eau et les nutriments, la cuscute est un parasite. Une autre plante grimpante ne fait pas non plus dans le détail. Le kudzu qui recouvre tout, étouffe tout sous ses feuilles et ses lianes, rendant la vie impossible. Introduit aux États-Unis pour lutter contre l'érosion des sols, le kudzu y a très vite été interdit. L'envahisseur coûte chaque année à la société des centaines de millions de dollars. D'autres plantes recrutent des mercenaires, en l'occurrence des armées de fourmis. L'acacia leur offre le gîte et le couvert, le nectar de ses fleurs. Pendant que les fourmis dévorent la moindre pousse autour de l'arbre, la concurrence est éliminée. Les fourmis attaquent aussi les herbivores qui viendraient manger les feuilles de l'acacia. Leurs morsures font fuir les éléphants, même 1 milliard de fois plus lourd. Face à la fourmi, l'éléphant ne fait pas le poids.
C'est quoi la fable du lion et de la fourmi ?
Eh bien, elle raconte une sorte d'effet papillon. Dans les savanes du Kenya, la fourmi acacia est en train d'être éliminée par une autre espèce invasive, la fourmi à grosse tête. Les acacias, désormais sans défense, disparaissent des zones envahies et les lions perdent un allié précieux. Ils ne peuvent plus se cacher dans les arbres pour chasser les zèbres. Ils se sont alors reportés sur des proies plus coriaces mais moins rapides, les buffles, devenus les dindons de la fable.
C'est dans ta nature avec Florent Guignard. Ce n'est pas le scrutin le plus connu en France, mais c'est un moment important du calendrier pour les expatriés. Les 30 et 31 mai prochains, les Français de l'étranger seront appelés à élire leurs conseillers et délégués consulaires, c'est-à-dire les représentants auprès des ambassades et des consulats. La date limite pour s'inscrire sur les listes électorales consulaires, c'est le 24 avril, vendredi prochain donc. Maître Charles-Henri Chenu est spécialiste de l'expatriation au cabinet Chenu Oliveira Santago pour la chronique. britannique vivre ailleurs. Il a expliqué à Corinne Manjou les enjeux de ces élections.
Fin mai, les Français de l'étranger vont pouvoir à nouveau choisir leurs représentants. C'est un moment important politiquement. C'est un vote qui a lieu tous les 6 ans et nous allons aujourd'hui renouveler un collège de 511 élus. Donc il faut appeler à une vraie mobilisation de vote. C'est le seul moyen en fait d'être représenté pour les Français de l'étranger localement par des élus de proximité. Et d'ailleurs, la réforme de 2013 a permis d'instaurer cette démocratie locale pour les expatriés. Il faut donc en profiter et voter.
Alors, quel est le rôle des conseillers consulaires ?
Ces conseillers ont un rôle de principe de défense des intérêts de leurs compatriotes expatriés. En fait, il y a 3 grandes missions. La première mission, c'est